Salut à tous, merci d'être si fidèles à Baleine sous Gravillon. Je viens vous cueillir une minute, pas plus, avant le début de votre épisode, pour vous proposer tout simplement de nous soutenir. Offrez-nous une minute au moins de votre temps. Vous savez qu'on est gratuit, sans pub et disponible pour tous sur toutes les applis d'écoute. Clairement, on a besoin de votre aide pour continuer à vivre. Et il y a plusieurs moyens simples de nous aider. 1. Vous pouvez nous faire un don unique ou récurrent, quelques balles par mois, quelques euros par mois, sur les liens indiqués dans le descriptif de cet épisode, sur HelloAsso ou sur Tipeee notamment, il y en a d'autres. 2. Vous pouvez installer le moteur de recherche Lilo au lieu d'utiliser Google qui vous exploite, vous le savez. Et le résultat, c'est que chaque recherche génère ce qu'on appelle des gouttes et pour nous, c'est des petits sous. Voilà, pour vous en plus, c'est gratuit, donc c'est pas difficile. Encore une fois, tous les détails sont dans le descriptif de cet épisode. Moi et plusieurs membres de l'équipe de BSG, on propose maintenant des fresques de la biodiversité, on propose des conférences, ben, parlez-en dans votre entreprise, dans votre asso, dans votre boîte quoi. Et évidemment, on vient avec tout le savoir-faire de Baleine sous Gravillon vous raconter le vivant, tout simplement. 4. On peut aussi créer vos podcasts ou en tout cas vous apprendre à faire les vôtres. On fait des formations pour ça et bien sûr, contactez-nous pour en savoir plus. 5. On cherche un partenaire pour tout l'écosystème de Baleine sous Gravillon. Et il y a différentes modalités. On en cherche un pour l'ensemble, on peut en prendre un pour un podcast en particulier, ou ce qu'on fait de plus en plus, on peut en prendre un pour une série d'émissions. Évidemment, c'est négatif, c'est moins cher à chaque fois. Moins bon marché, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas si cher. Donc voilà, vous pouvez devenir coproducteur de ce qu'on fait. En tout cas, ben, voilà, prenez conscience que ce qu'on fait est certes gratuit, mais on a besoin de vous pour continuer à exister. Moi, ça fait 3 ans que je fais ça sur mes fonds. Et là, ben, évidemment, je suis obligé de faire autre chose hein, pour vivre, sachant que France Culture ne suffit pas à me faire vivre. Voilà. Pour nous joindre, c'est simple, contact@baleinesousgravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt. Salut Ludivine.
Salut Marc.
Aujourd'hui, on va parler des mille pattes. Leur famille s'appelle les myriapodes. Et je m'empresse de dire, tu me connais, que myriapode ne signifie pas 1000 pattes, signifie 10 000 pattes. Voilà, myria en grec, c'est plutôt 10 000. Et donc les myriapodes forment un sous-embranchement des arthropodes eux aussi. On avait parlé du cloporte qui faisait partie des crustacés, par exemple, qui est un autre sous-embranchement. Mm-hmm. Et bien là, les myriapodes, c'est un autre sous-embranchement qui contient 4 classes principales dont on va parler aujourd'hui. Et je veux bien que tu nous donnes la première.
Oui, il y a déjà 2 grandes classes dans ces 4 quand même, les 2 principales. Et la première sont les chilopodes.
Ça s'écrit CHI, hein, chilopode.
Ouais, c'est ça, CHI. Les chilopodes, ce sont toutes les espèces qui portent une seule paire de pattes par segment. Mmh. Et dans ce groupe-là, on va retrouver les lithobies, les scutigères, les scolopendres, voilà, plein de noms rigolos.
Et les géophiles.
Et les géophiles, oui, aussi.
Ouais. Alors, tu me permets de faire un petit, une petite halte étymologie, parce que c'est des jolis noms. Donc, scutigère, c'est le porteur de bouclier. Alors, scutigère, c'est un insecte qui fait peur à beaucoup de gens. Il y en a dans les maisons. C'est une sorte de mille-pattes avec des très longues pattes. Hein. C'est comme ça qu'on a de très longues antennes. La scutigère, tu la décrirais mieux que moi ?
Non, pas forcément mieux, mais...
Et d'ailleurs, on l'appelle la scutigère véloce.
Oui, c'est ça, la scutigère véloce. Et son nom latin, c'est scutigera coleoptrata. Elle est jaune, jaune clair en fait, et avec 2 lignes sur le dos, mais en général on n'a pas le temps de voir ça parce qu'en effet elle est véloce, parce qu'on la voit.
C'est vraiment la plus rapide de la famille. Hein.
Oui, oui.
Ouais, elle a des très très grandes pattes.
Elle a des très grandes pattes frêles qui sont zébrées. C'est étonnant parce qu'en fait les pattes sont plus courtes devant le corps et plus longues devant. C'est grâce à ça d'ailleurs qu'elle va très vite. C'est grâce à cette adaptation, comme ça les pattes de devant ne la gênent pas dans son déplacement et les pattes de derrière servent à la propulsion un petit peu.
On se demande comment ils font pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis, si j'ose dire, les pattes dans les autres pattes. Alors, il y a quelque chose d'important qu'on a oublié de dire sur les chilopodes, c'est que ce sont les seuls qui ont des crochets venimeux et qui sont potentiellement un peu dangereux. C'est-à-dire qu'effectivement, se faire mordre par un scolopendre, notamment, c'est assez douloureux. Ils peuvent injecter du venin grâce à leurs crochets qu'on peut voir. Et il y a notamment des espèces préhistoriques qui faisaient 1 mètre, qu'on retrouve dans certains films, comme King Kong, par exemple, qu'on voit, qui font vraiment peur. Ces espèces de mille pattes qui sont moins sympas que les hyules dont on va parler dans un instant. Alors, je n'avais pas fini les étymologies. Scolopendre, c'est assez drôle. Alors, c'est un monstre fabuleux de l'Antiquité. Mais la signification de scolopendre, ça veut dire aller dans le même sens. Ça a trait au fait de... On se demande comment font ces animaux pour se déplacer, ça paraît compliqué. Lithobie, bah, litho c'est la pierre, bi, bios c'est la vie, donc c'est ceux qui vivent sous les pierres, jusque là tout va bien. Géophile, c'est ceux qui aiment la terre, donc c'est pareil, hein. C'est des êtres un peu comme les cloportes, on avait vu, c'est des êtres qui vivent cachés.
Oui, oui, ils sont en effet plutôt lucifuges et vivent dans la litière du sol, donc quand même à l'abri de la lumière, il faut en général, si on en cherche, il faut un petit peu fouiller, gratter le sol pour les trouver ou soulever écorce, tronc ou éléments posé sur le sol.
D'accord, donc je précise que ces crochets à venin s'appellent les forcipules. Ils sont vraiment très imposants, enfin, on les voit hein, quand on regarde à la loupe un de ces myriapodes. C'est vrai que c'est impressionnant et je l'ai dit, ça peut faire mal. Il est temps peut-être d'enchaîner sur la deuxième classe de 10 000 pattes, puisqu'on a vu que les myriapodes, ce n'était pas 1 000, mais c'était 10 000 pieds étymologiquement. Ouais. Quelle est l'autre classe connue en France?
C'est 10 000 fois exagéré, quasiment du coup, parce qu'il n'y a évidemment pas d'espèce avec 1 000 pattes, mais voilà.
Alors, il est temps d'informer ceux qui nous écoutent sur peut-être le plus important de cet épisode, c'est que les 1 000 pattes n'ont peut-être pas 1 000 pattes, ils n'ont certainement pas 10 000 pattes. Quel est le record en la matière, Ludivine?
Alors le record, il est assez loin des 10 000 pattes, mais pas si loin des 1 000 pattes. Le record, il est détenu par une espèce de Californie, c'est un diplopode, donc c'est la seconde famille, on va en parler juste après.
Celle des yules, hein, des gloméris.
Et des gloméris, voilà, c'est ça. Et c'est un diplopode qui vit en Californie, qui fait 3 cm de long. Et certains spécialistes ont compté jusqu'à 752 pattes sur ce diplopode, donc voilà, on n'est pas loin des 1 000 quand même.
Ouais, donc pas loin de 1 000, effectivement, c'était pas complètement idiot de les surnommer 1 000 pattes. Eu égard à ce record qu'on vient de donner. Est-ce que tu veux revenir sur les différentes espèces les plus connues des chilopodes? On l'a vu, c'est la première classe de ces 1 000 pattes. C'est ceux qui ont ces crochets venimeux. Donc, scutigère, scolopendre, lithobie, géophile. Est-ce que tu veux ajouter un mot sur chaque espèce?
Oui, sur chaque espèce, peut-être pas. Mais en tout cas, dire que, et tu l'as précisé tout à l'heure, ce sont des espèces qui ont des forcipules qui leur permettent d'injecter du venin. Donc, ce qui fait qu'elles peuvent être... un peu dangereuse ou en tout cas faire mal quand elles mordent, mais surtout ça leur sert à prédater, ce sont des espèces prédatrices. Et par exemple la scutigère qu'on trouve souvent dans les maisons, elle va manger larves d'insectes, insectes ou araignées à l'intérieur des maisons, et elle est rapide parce qu'en fait elle attrape ses proies à la course, vraiment, elle les pourchasse, donc d'où l'intérêt pour elle d'aller très vite.
D'accord. Et quid du scolopendre?
Quid du scolopendre?
Qui est l'autre insulte, ouais, du capitaine Haddock.
Ah bon? Oui, okay, je ne savais pas. Scolopendre, lithobie, ils se ressemblent un petit peu, ces deux grands groupes. C'est-à-dire que les pattes, là, cette fois, par rapport à la scutigère, sont beaucoup plus courtes. Ce sont des individus de brun-marron.
Orange, voilà. Des fois, ouais.
Orange, des fois, ouais. Mais pattes beaucoup plus courtes que la scutigère, avec une tête bien visible et bien détachée du thorax.
Des longues antennes, des crochets antennes qu'on peut voir.
Ouais.
Voilà, ils sont plutôt oranges, assez mous, hein, contrairement aux yules dont on va parler dans un instant. Ouais. Et la lithobie est beaucoup plus marron foncé, noir, hein,
pour ouais, faire selon la différence. Selon les espèces.
Ressemble ouais. Un peu au scolopendre, d'après ce que j'ai vu. Et les géophiles, ben, j'ai l'impression qu'ils sont aveugles, tout blancs, on les trouve dans le sol. Ils ont énormément de segments et de pattes. Ils ne doivent pas être loin du record non plus, les géophiles. Ouais. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur les chilopodes?
Non, je m'arrêterai là, sur les chilopodes.
D'accord, donc on va enchaîner sur l'autre classe des myriapodes, des 1 000 pattes, que sont les diplopodes. Et donc, on va tout de suite dire qu'effectivement, quelle est leur énorme différence avec les chilopodes?
Diplopodes, parce qu'il y a deux paires de pattes, cette fois, par segment, et plus une paire de pattes par segment, comme les chilopodes. Et on retrouve dans ce grand groupe les yules, qui a un drôle de nom, et les gloméris.
Voilà, donc les gloméris qui sont un peu plus petits que les yules. Les yules, c'est ceux qui s'enroulent en spirale. Je pense que chacun en a vu. Ce sont ces myriapodes un peu noirs, cuirassés, qui ressemblent à des cloportes étirées, je vais le dire comme ça. Et les gloméris ressemblent beaucoup plus, pour le coup, à des cloportes. Tu me l'as dit en préparant l'émission, il y en a même qui les confondent.
Hein. Oui, c'est ça. Les yules, ça fait vraiment, moi je dirais, un peu des tubes. Oui. Des cylindres, des longs cylindres.
Ouais, ils sont moins aplatis que les chilopodes.
Voilà,
ouais.
C'est ça.
Avec des toutes petites pattes blanches.
Toutes petites pattes et à peine visibles, qui sont finalement assez cachées sous le corps.
Et donc, deux paires de pattes par segment, ça, tu l'as dit. Et ce que je signale, c'est que yule, c'est aussi un terme de botanique qui désigne les chatons de fleurs, par exemple les chatons du bouleau.
Oui.
C'est un terme que les botanistes utilisent. Et c'est drôle parce que l'étymologie de yule vient de là, ça veut dire l'hirsute, le poil follet, un truc avec des poils, un peu hirsute. Et c'est drôle, voilà, d'où vient le nom de la yule. Et le gloméris, son petit cousin un peu plus court, bah, gloméris, c'est, l'étymologie signifie pelote. Et donc, pourquoi il s'appelle pelote?
Donc les gloméris, les pelotes, c'est parce que, comme les cloportes dont on a déjà parlé, elles sont capables de se mettre en boule quand on les dérange. Moi, j'ai beaucoup joué à ça quand j'étais enfant, mais voilà, quand on gratte un peu la litière, qu'on trouve ces petits gloméris, dès qu'on les embête, poup, ils se rétractent, ils forment une petite boule et ils peuvent rester comme ça vraiment très longtemps et c'est impossible de les défaire. C'est très...
De les ouvrir.
Ouais, de les ouvrir.
On dirait des mini pangolins.
Oui.
Alors, Ludivine, est-ce qu'on parlerait pas un peu du régime alimentaire de nos diplopodes ?
Les diplopodes ne sont pas des prédateurs comme les kilopodes. Enfin, la plupart sont...
Ah,
le pigeon ramier s'envole de son nid délicatement avec grâce.
Oui, et c'est drôle, mais c'est là... Enfin, je ne sais pas si les auditeurs ont entendu le bruit des ailes du pigeon, mais on en avait déjà parlé dans les épisodes... Il me semble que c'était avec Jean Andrieux sur les rapaces. Les pigeons ont une espèce d'adaptation qui font du bruit quand ils s'envolent, et ça aurait une vertu d'alerte. C'est ainsi qu'ils pourraient s'alerter entre eux en faisant ce bruit avec leurs ailes. Mmh. C'est quasiment un bruit automatique. Pardon, ça n'a rien à voir avec nos histoires de diplopodes. Reviens sur les histoires de...
régime alimentaire. Ouais. Donc, les diplopodes, donc gloméris, yules, sont détritivores. Vont consommer feuilles, bois morts ou fruits décomposés qu'ils vont trouver sur le sol.
Un peu comme les cloportes, finalement.
Oui, et un comme peu comme les limaces.
Ils ont un peu tous le même métier.
Ils sont importants. Ils vont vraiment participer au recyclage de la matière organique et à la constitution de l'humus de la litière.
D'accord. Donc, on avait promis quatre classes. Donc, les deux autres sont moins connues. En tout cas, moi, je ne les connaissais pas. Hein. Même leurs noms communs ne sont pas évidents. Donc, c'est les poropodes, P-A-U-R-O, poropodes, et les symphiles. Et donc, les symphiles, elles sont aveugles, blanchâtres. On les trouve parfois dans la terre. Et c'est vrai qu'on a l'impression qu'elles sont très longues, avec beaucoup de paires de pattes. Voilà, ça ressemble grosso modo à des scutigères, à des scolopendres, mais qui seraient beaucoup plus effilées, avec des pattes beaucoup plus courtes et qui seraient toutes molles, blanchâtres et qui vivent dans la terre. En gros, c'est ça que j'ai vu après les photos.
Symphiles et poropodes sont dépigmentés, quasiment blancs, translucides, avec soit des petits yeux ou même, dans le cas des symphiles, je crois que les individus sont aveugles.
Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur notre immense famille des mille pattes ?
Non, chère Marc. J'ai
bon,
tout dit.
Eh bien, on va rendre l'antenne pour cet épisode. On va se retrouver très prochainement pour un autre épisode, cette fois-ci sur les guêpes et les frelons. Salut les divines, merci pour tes lumières. À très vite, prends soin de toi. Salut.
Salut Marc, merci.
C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG ou encore faire un don sur HelloAsso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.